Bonjour à tous, vous écoutez Semillas Latinas, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la célébration des cultures d'Amérique latine et à l'analyse des enjeux sociopolitiques qui s'y déploient.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Avec près de 60% des voix, Claudia Sheinbaum du parti Morena, le mouvement de régénération nationale fondé par Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, a remporté l'élection présidentielle mexicaine du 2 juin dernier face à ses opposants et opposantes Xochitl Gálvez et Jorge Álvarez Maínez. Sheinbaum devient la première femme présidente du pays. Elle succédera à AMLO à la présidence du Mexique le 1er octobre 2024. Docteur en ingénierie électrique, ex-membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, elle est également l'ancienne chef du gouvernement de la ville de Mexico. Elle s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur AMLO qui a entrepris une série de mesures sociales pour combattre les inégalités de classe. Il termine son mandat avec plus de 70% d'approbation. Claudia Sheinbaum dispose désormais de tous les leviers politiques pour gouverner le pays. Morena et ses alliés, le Parti des Travailleurs et le Parti Vert Écologiste, ont remporté la majorité qualifiée des deux tiers à la Chambre des députés et la majorité absolue au Sénat. La coalition présidentielle Sigamos Haciendo Historia contrôle également 24 des 32 États du pays. Les élections générales du 2 juin dernier scellent l'effondrement du PRI, le parti révolutionnaire institutionnel qui est resté au pouvoir pendant 7 décennies et a gouverné le pays de manière autoritaire jusqu'aux années 2000. Désormais, ce parti semble vidé de son identité politique. La droite, quant à elle, ressort très affaiblie de ces élections générales. Claudia Sheinbaum promet de donner une continuité aux politiques sociales mises en place par son prédécesseur, d'entreprendre une transition verte pour le pays et de garantir les droits de toutes les femmes au Mexique. De nombreux défis subsistent pour la présidente élue, notamment en matière de crimes organisés, de politique migratoire, de violences de genre et de féminicide, sujet dont nous parlerons ce soir aux côtés de nos chroniqueuses et de nos invités. Pour notre premier épisode dédié au Mexique et aux questions féministes, nous recevons les chroniqueuses Manon Mesia et Paloma Petrich. Paloma nous parlera de la place des femmes et des minorités de genre dans l'espace public au Mexique et Manon s'adonnera à une chronique littéraire autour de l'ouvrage de Sergio González, Des eaux dans le désert, portant sur les féminicides à Ciudad Juárez et l'impunité qui y règne. Nous parlerons ensuite de la législation sur le féminicide au Mexique, des politiques de lutte contre les violences de genre et des attentes des activistes féministes face à l'élection de Claudia Sheinbaum avec l'enseignante chercheuse Karine Tina et l'activiste féministe Alexia Prado. Nous clôturons cette émission avec les chroniques culturelles d'Anaël Michel sur les Mexicas et de Pauline Rossano sur l'icône féministe Frida Kahlo. Excellente soirée sur Radio Campus Paris.
Bonsoir Paloma.
Bonsoir.
De quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Alors, cette émission est dédiée au féminisme au Mexique et avec Astrée, ça nous paraissait important de parler de la place accordée aux femmes dans l'espace public et de la manière dont les femmes et les minorités de genre vivent cette expérience de la ville. Donc pour bien comprendre la situation mexicaine, il faut garder en tête qu'actuellement, on a environ 10 femmes qui sont tuées par jour au Mexique, un chiffre qui ne prend même pas en compte toutes les formes de violence que subissent ces femmes. Donc la violence, en particulier envers les femmes et les minorités de genre, est très prégnante au Mexique, et si elle est particulièrement forte dans la sphère privée, elle est aussi à l'extérieur dans la ville. Par exemple, en 2018, l'enquête nationale sur la perception de la sécurité publique nous disait que 85% des femmes majeures ne se sentaient pas en sécurité dans la rue. La rue est donc un endroit hostile et dangereux et l'espace public n'est donc pas si public si tant est qu'on soit une femme ou qu'on appartienne à une minorité de genre.
Et est-ce que, Paloma, des mesures ont été mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre ces inégalités ?
Alors oui, certaines municipalités ont investi dans des dispositifs qui rendent les villes plus sûres. On parle alors d'un urbanisme féministe, c'est-à-dire que la façon de fabriquer la ville porte une attention particulière au bien-être des femmes, mais aussi des enfants et des personnes âgées. L'idée, c'est que si une ville est plus sûre, agréable et ouverte à la participation féminine, alors elle le sera pour tous les autres segments de la population. On peut notamment parler du dispositif Senderos Seguros, qui a été créé en 2019 dans la ville de Mexico et qui met en place diverses mesures qui vont de l'augmentation de l'éclairage public à l'installation de caméras de vidéosurveillance. Ces mesures ont pour vocation de sécuriser les déplacements sur des itinéraires qui sont définis. Et on peut aussi parler d'une autre mesure qui concerne les transports publics et qui a été adoptée depuis les années 70 au Mexique, qui sont les rames de métro réservées aux femmes et aux enfants aux heures de pointe.
Et est-ce que réellement ces mesures sont efficaces pour permettre aux femmes de circuler dans l'espace public ?
Statistiquement, oui, ces mesures sont les bienvenues et les Senderos Seguros ont par exemple permis de diminuer les agressions de près de 30% sur les itinéraires qui avaient été définis. Mais le problème, c'est que sans vision systémique et sans changement en profondeur, ces mesures sont considérées à juste titre comme des mesures cosmétiques. Par exemple, les rames de métro genrées vont cantonner les femmes dans un espace intérieur à certaines heures, mais elles ne remettent pas vraiment en cause le comportement des agresseurs. Et encore aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, les femmes sont perçues comme responsables des agressions, que ce soit à cause de leur tenue, de l'horaire ou finalement simplement de leur présence. La chercheuse Mercedes Zúñiga Elizalde parle alors d'un double jeu entre la visibilisation et l'invisibilisation des femmes dans l'espace public. C'est-à-dire que les femmes sont visibles en tant qu'objets de désir et d'indignation, mais elles sont invisibles en tant que sujets de droit qui cherchent à s'approprier l'espace public comme un lieu d'exercice de leur propre liberté.
Et les femmes arrivent-elles tout de même à se faire une place dans cet espace public dont tu parles ?
Oui, tout à fait. Les femmes mexicaines s'organisent depuis longtemps pour légitimer leur présence dans la ville. Elles sont par exemple très présentes dans des mouvements d'urbanisation populaire. En périphérie des villes, par exemple, elles vont s'investir dans des travaux communautaires qui permettent d'améliorer les conditions de vie. Et dans le centre des villes, elles vont se battre, par exemple, pour le droit au logement dans des mouvements de locataires et des associations de quartiers. Mais au-delà de cet investissement communautaire, les mouvements féministes optent pour la revendication de la rue comme un espace de défense des droits des femmes, comme lors des mobilisations pour le droit à l'avortement, par exemple. Et en prenant les grandes avenues, notamment lors des mobilisations du 8 mars, ces mobilisations permettent de visibiliser le vécu des femmes et des violences qu'elles subissent. La ville va alors devenir un réceptacle des luttes et des forces féministes plutôt que celui des agressions. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au Mexique comme ailleurs, la place des femmes dans l'espace public fait toujours l'objet de luttes constantes et que le chemin est encore long avant la construction d'une ville qui prend en compte la voix des femmes avec des espaces qui sont incluants, accessibles et sécurisés pour toutes et tous. Espérons que l'élection de Claudia fasse bouger les lignes.
Merci beaucoup Paloma Petrich et Astrée Tourpiole qui a contribué à cette chronique depuis le Brésil. Bonsoir Manon, comment vas-tu ?
Bonsoir, bien et toi Sylvie ?
Très bien, merci. De quoi vas-tu nous parler pour cette émission ?
Je vais vous parler d'un livre génial. Donc je sais que vous avez déjà tous regardé des séries et des enquêtes criminelles à la télé au moins une fois, voire que vous êtes de ceux qui raffolent avec un plaisir un peu malsain de tout type de podcasts et chroniques criminelles. Et bien moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ça, mais en beaucoup mieux. Je vais vous parler donc des Eaux dans le désert, un roman de Sergio González Rodríguez, publié au Mexique en 2002, puis traduit en français par Isabelle Gugnon et publié aux éditions Passage du Nord-Ouest en août 2007. Donc petit bond en arrière dans la décennie 1995-2003, nous voilà lancés dans les chroniques criminelles de la ville frontière nord-mexicaine qu'est Ciudad Juárez, ville voisine de son double tout aussi maléfique qu'est la ville d'El Paso au Texas. On y suit le journaliste et écrivain Sergio González Rodríguez qui, face à l'inaction et aux mensonges des autorités, enquête au péril de sa vie sur une vague de féminicides sans précédent, dans un humour noir et une intrigue journalistique qui nous happe littéralement. Sergio González Rodríguez revient sur une partie de l'histoire du Mexique qui a tristement participé à l'émergence du terme « féminicidio ». C'est notamment l'anthropologue mexicaine Marcela Lagarde qui utilise ce terme pour décrire les meurtres de femmes au Mexique et au Guatemala dans les années 90. Donc Sergio va plonger dans l'enfer qu'est la ville de Ciudad Juárez et en tentant de comprendre comment, par qui et dans quelles conditions ont été commis tous ces meurtres de femmes, il va toucher au narcosystème, à la corruption de tout le corps et de tout l'appareil d'État mexicain, de tous ses représentants qui ont caché, voire participé à ces féminicides. Ce récit est à la croisée du journalisme, de l'essai et de la poésie, et c'est justement cette narration à la fois extrêmement policière, méticuleuse et froide, et en même temps très rythmée, poétique et empreinte d'un humour noir génial, qui m'a fait dévorer ce livre comme un grand roman noir. On a clairement ici, en vrai, l'émotion un peu chair de poule de faits sociétaux énoncés dans toute leur cruauté, leur trivialité et leur véracité. Ou comment sublimer l'horreur, mais jamais dans un esprit divertissant. Bien au contraire, l'auteur prend son travail extrêmement au sérieux, autant dans les sources, 20 pages de sources à la fin, que dans les précisions des rapports rapports légistes, des noms des policiers, des avocats, des juges, des associations, des familles et complices qui s'entremêlent dans cet espace littéralement en putréfaction qu'est la ville de Ciudad Juárez. C'est dense, mais ce n'est jamais lassant ou désorientant. En contraire, il donne pile les informations précises et pertinentes qui nous font avancer dans la compréhension. Il joue avec les époques, les faits, les personnages, les découvertes, les thématiques pour faire correspondre ensemble une multitude de réalités. Au fur et à mesure que l'enquête avance, les fils qui tissent en fond le système mexicain féminicidaire nous apparaît de plus en plus clairement, mais aussi de plus en plus consternant, tant les complices et les coupables sont nombreux, les institutions inefficaces, voire assassines, l'impunité totale et la chape d'ignorance et de malhonnêteté lourde. 500, 840, 1653, les documents officiels comme officieux de l'État et des associations donnent tous des chiffres différents, mais qui inspirent tous la même horreur, celle de centaines et centaines de femmes assassinées, agressées et violées, dans la grande majorité des cas, dans la région de Ciudad Juárez, entre 1993 et 2007 donc. Sergio González Rodríguez, lui, ne donne pas de chiffres précis, car ces meurtres, ces drames ne se sont jamais réellement arrêtés, et que potentiellement encore quelques centaines n'ont pas été découverts ni révélés. Il voulait justement rester dans l'exactitude journalistique de cette réalité-là. Enfin, il voulait aussi montrer le travail de désinformation énorme, voire l'absence totale d'enquête et d'investigation de la part des représentants mexicains de la police, qui n'arrivent pas, et ne veut pas surtout, donner de vrais chiffres. On plonge aussi dans les tréfonds et la dissection d'un espace particulier, celui d'une ville frontalière, d'une légende urbaine qui a fait couler beaucoup d'encre. Si Ciudad Juárez est désormais connue bien au-delà des frontières mexicaines, ce qu'elle est directement associée à la mort, elle en est fait devenue depuis le début des années 90 la ville qui tue les femmes, pour reprendre le titre dans l'ouvrage de Marc Fernandez. L'auteur, Sergio González Rodríguez, l'aborde sur le mode fantastique et sur l'humour noir, ce qui renforce cette idée d'une toile d'araignée, où tous les ressorts de la violence se sont mis en branle à un moment T. Il commence ainsi le récit en décrivant des jeunes filles perdues au pays de nulle part, ou la Twilight Zone, en insistant sur cet imaginaire effrayant qu'est le désert. Et donc vraiment, au début, il commence par cette idée de Twilight Zone, comme si c'était un phénomène un peu fantastique et mystique à Ciudad Juárez, comme si la population était devenue folle, pour finalement dérouler implacablement son exposé d'une machine à exterminer les femmes et d'un système de violence généralisée qu'on peut retrouver, malheureusement, dans toutes les villes du monde. Ce récit a donc une résonance particulière aujourd'hui, alors que l'utilisation du terme féminicide a été massifiée. Et c'est pour ça qu'il a été réédité en 2003 par les éditions de l'Or dans la collection Sirène. L'édition de l'Or, du coup, explique que leurs livres Sirène, ce sont ces formes hybrides entre fiction et non-fiction, des récits intemporels qui nous attirent irrésistiblement et nous piègent par leur voix puissante et universelle. Et c'est ce qu'est Sergio González Rodríguez dans ce livre, puisqu'il fait un hommage et un mémoire aux mortes à ne pas oublier.
Merci beaucoup Manon pour cette chronique. Nous nous retrouvons après une pause musicale. Tout de suite, c'est Maria la Curandera, une chanson féministe qui revendique la sororité et la force des femmes de l'artiste mexicaine Natalia Lafourcade.
Que va y viene, deja que te ame. Cúrate.
Nous recevons aujourd'hui deux invités. Karine, Tina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse au Centre d'études sur le genre du Colegio de México. Vous coordonnez la chaire Simone de Beauvoir. Vous êtes également la fondatrice de la revue interdisciplinaire d'études sur le genre du Colegio de México. Vos principaux thèmes de recherche portent sur le corps, la sexualité et l'alimentation. Et à vos côtés, Alexia Prado, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes activiste féministe, étudiante à l'IHEL, l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, et autrice d'un mémoire sur la législation sur le féminicide au Mexique. Merci à vous deux d'être présentes ce soir. Et nous retrouvons également Paloma Petrich qui m'accompagnera dans la conduite de cette interview. Rebonsoir Paloma.
Bonsoir Sylvie.
Alors le Mexique a été parmi les premiers pays au monde à proposer la typification du délit de féminicide puisque ce crime a été inscrit dans le Code pénal fédéral en 2012. Avant cette date, en 2007, est promulguée la loi générale d'accès aux femmes à une vie libre de violence qui reconnaît le féminicide et la violence faite aux femmes. Et c'est donc sur ça que porte ton mémoire, Alexia. Donc est-ce que peut-être tu peux nous expliquer quelles sont les caractéristiques du féminicide reconnu par la loi au Mexique ?
Oui, bien sûr. D'abord, je veux juste préciser que ces caractéristiques peuvent varier selon l'entité fédérée parce que chaque entité a un code pénal différent, mais le Mexique a aussi un code pénal national qui détermine que le féminicide est commis par toute personne qui tue une femme pour un motif fondé sur le sexe. Ça peut être... Il y a 8 caractéristiques qui incluent que la victime présente des signes de violence sexuelle, que la victime ait subi des blessures ou des mutilations infamantes ou dégradantes, qu'il existe des antécédents ou des preuves de tout type de violence dans l'environnement familial, professionnel, communautaire, scolaire, etc. L'auteur et la victime ont été liés par les sangs ou par affinité. Par exemple, si on était en couple, si c'est le père ou le fils de la victime, le frère, un ami même ou un collègue de travail, etc. C'est-à-dire si c'est connaissé avant. Encore, si les informations établissent qu'il y a eu des menaces directes ou indirectes liées à ce meurtre ou à l'harcèlement ou à la blessure de la victime avant. Que le corps de la victime ait été exposé, jeté, déposé ou exposé dans un lieu public pour... faire de l'humiliation à un post-mortem. Et dernièrement, que l'auteur a contraint la victime à exercer une activité ou un travail qui présente une forme quiconque de discrimination ou d'exploitation.
Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du chemin qui a été parcouru par les parlementaires pour pouvoir inscrire le féminicide dans l'agenda politique du Mexique ?
Oui, bien sûr. C'est un parcours a été très intéressant. Il a commencé par Marcela Lagarde, de qui on a déjà parlé un peu, anthropologue mexicaine très reconnue mondialement, qui a porté et comparti sa recherche sur les féminicides. Elle a importé au Mexique et en Amérique latine le terme « femicide », après transformé par elle en « féminicide » pour des raisons théoriques. Elle est devenue candidate parlementaire en 2003 par le parti PRD, qui était le parti des gauches le plus important à l'époque. Et elle a fait le féminicide le centre de son activisme militant et parlementaire. Donc elle a commencé à faire des alliances avec d'autres députés féministes, soit de son parti, soit des autres partis, même les conservateurs, pour essayer de les convaincre de la nécessité de faire un plan ensemble, laisser à côté leur identité partisane et leurs idéologies individuelles, et vraiment se centrer sur le fait qu'il s'agit des féministes qui veulent aider les femmes dans le pays. Et il faut donc travailler ensemble et créer une loi contre les violences faites aux femmes qui inclut le féminicide.
Merci à Alexia pour avoir soulevé le rôle extrêmement important de la commission spéciale sur les féminicides. Est-ce que peut-être, Karine, Tina, vous pouvez nous parler du rôle du mouvement féministe mexicain dans la typification du délit de féminicide ?
Merci Sylvie. Eh bien oui, c'est effectivement très important ce rôle. Et dans les mouvements féministes actuels qui font comme une vague dans toute l'Amérique latine, hein, de manifestations à tout moment, en fait... La lutte contre les féminicides est très présente, de l'Argentine jusqu'au Mexique, et notamment à partir du hashtag Ni Una Menos, pas une de moins. Et donc, effectivement, c'est une des batailles qui est livrée actuellement au Mexique. Et on voit, par exemple, le 8 mars tous les ans, là, depuis quelques années, non seulement des femmes qui s'identifient au mouvement féministe, mais aussi des mères qui réclament la justice pour leurs filles qui ont été assassinées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque et qui est nouveau depuis quelques années. Et vraiment un ras-le-bol, c'est-à-dire stop, faisons quelque chose contre ces problèmes, non ? C'est un problème qui a été identifié notamment à partir de tous les assassinats de femmes dans la ville de Ciudad Juárez, qui est connue au Mexique pour être un des hauts lieux des femmes disparues et des femmes assassinées. Mais ce n'est pas seulement à Ciudad Juárez, hélas. Ça traverse le pays et ça traverse toute l'Amérique latine.
Oui, on va dire que le cas de Ciudad Juárez a été emblématique et a aussi été connu à l'échelle internationale, ce qui a aussi poussé les autorités à agir. Mais est-ce que c'est réellement toutes les femmes qui sont victimes de cette violence féminicidaire à Ciudad Juárez, ou est-ce qu'il y a un certain profil de femmes qui est visé par cette violence ?
En général, ce sont des femmes assez jeunes, disons entre 15 et 25 ans, qui sont la cible des féminicides. Des femmes aussi qui travaillent dans des maquiladoras, donc dans des usines pour certaines. Et une des caractéristiques associées au meurtre, c'est l'abus sexuel qui précède en général l'assassinat. Alors, elles vivent souvent dans des quartiers ou des milieux modestes, là où il y a un certain niveau de délinquance, où le trafic, le narcotrafic est présent. Enfin, c'est difficile de généraliser, d'établir un profil, mais c'est vrai qu'il y a certains points communs qui reviennent en tous les cas.
Merci beaucoup. On parle donc de féminicide ce soir. L'anthropologue féministe décoloniale argentine Laura Rita Segato fait la distinction entre le concept de féminicide et le concept de fémigénocide. Est-ce que peut-être, Alexia, tu pourrais nous dire pour quelles raisons et à quoi renvoie le terme de fémigénocide ?
Oui, en vrai, il y a eu beaucoup de débats internationalement sur comment adapter le terme fémicide à l'espagnol. Donc, Marcela Lagarde était de courante mexicaine, on peut dire, qui était pour féminicide, un mot qui parle d'impunité. C'est un féminicide universel contre toutes les femmes en raison de leur sexe, où il y a de l'impunité de la part de l'État. Il y a une autre école costaricienne, de Ana Carcedo, qui elle propose plutôt fémicide, parce que pour elle, le féminicide, ce n'est pas un problème universel, comme pour Lagarde, sinon c'est contre les femmes racisées, les femmes pauvres, les femmes minoritaires. Certains groupes de femmes, c'est l'intersectionnalité qui sont plus probables de devenir victimes du féminicide que d'autres. Et Rita Segato a commencé à parler sur le fémigénocide, si je ne me trompe pas, vers les années 2010, du fait qu'on ne tue pas femmes parce qu'elles sont des femmes, sinon on veut vraiment détruire la classe que c'est les femmes. On met de contrôle parce que le génocide, il ne s'agit pas seulement de tuer les personnes pour les tuer, c'est de tuer un groupe bien précis des personnes pour les contrôler. C'est un contrôle non seulement sur les personnes mortes, sinon sur les personnes qui sont encore vivantes, leur dire « on a des pouvoirs sur votre vie, donc on peut vous tuer quand on veut vous garder en vie quand on veut, vous dépendez complètement de nous ». Donc il a vraiment ce côté contrôle et pouvoir au-delà de seulement la vie d'une femme, sinon la vie des femmes en général.
Effectivement, c'était l'idée de l'extermination du groupe social des femmes, en fait, pour affirmer davantage le pouvoir masculin, la domination masculine, ou ce que Segato dit encore, le mandat de masculinité. C'est-à-dire cette volonté d'appartenir à la classe des hommes, à la confrérie masculine. Donc c'est en fait une espèce de pédagogie du pouvoir, selon les termes de Segato, liée à cette idée de l'assassinat des femmes, parce qu'elles sont des femmes, pour en finir avec la catégorie femmes en général.
Merci beaucoup pour vos réponses et c'est important de faire cette distinction étant donné que c'est vraiment Laura Rita Segato qui a été pionnière dans cette conceptualisation. Et pour peut-être passer au futur mandat de Claudia Sheinbaum, collectif féministe dans l'ensemble accuse Claudia Sheinbaum de ne pas se positionner sur l'avortement et sur l'impunité des féminicides, d'avoir réprimé aussi les mobilisations féministes et des personnes trans durant son mandat de gouverneur de Mexico et d'exprimer son intérêt pour la consolidation de la garde nationale critiquée par la société civile pour son approche militariste. Pour vous, est-ce qu'il est possible de renouer le dialogue entre le mouvement féministe mexicain et Claudia Sheinbaum? Et par ailleurs, quelles sont les attentes finalement de ces activistes face à l'élection d'une femme à la présidence, Karine Tina?
Écoutez, on a beaucoup d'attentes et on a beaucoup d'espoir, en effet. Je crois que le fait qu'une femme soit élue présidente, et en plus avec plus de 60% des votes, on est vraiment contente de voir cet accès au pouvoir. C'est un bon message de départ. Maintenant, il me semble qu'effectivement, tant qu'elle a été gouverneure, elle n'a pas eu une position qu'on aurait pu dire féministe. On a des attentes, on est optimiste et on veut croire au fait qu'elle s'affirme davantage aux côtés des activistes, des féministes. Seulement, elle a des défis majeurs à relever dans sa prise de pouvoir et pas forcément reliés avec des problématiques de genre. Par exemple, il y a toute la question de la pauvreté au Mexique. La pauvreté, c'est un vrai thème qu'elle va devoir affronter. Après, il y a aussi un autre thème qui va être la migration. Toute la question du narcotrafic, des violences liées au narcotrafic qui débouchent sur des féminicides, mais pas seulement. Il y a une question de l'écologie. Où va-t-elle placer les questions féministes, les questions trans? Les questions de l'avortement, je ne sais pas si ça va être une priorité pour elle. Elle s'est affirmée étant du côté des féministes après avoir gagné les élections. Elle veut se battre aux côtés des femmes, pour les femmes. Il faut quand même rappeler qu'il y a 10 femmes minimum assassinées par jour au Mexique. Ça dit quelque chose. Et 95% de ces cas-là sont impunis. Donc voilà, en fait, pour rebondir sur le sujet des féminicides, va falloir qu'elle fasse quelque chose. On est dans l'attente. Maintenant, est-ce qu'elle le fera? On en est moins sûr.
Merci beaucoup, Karine Tina, pour vos réponses. Nous nous retrouvons après une pause musicale. Tout de suite, c'est Canción Sin Miedo, hymne féministe contre les féminicides et les violences faites aux femmes, composée par la chanteuse mexicaine Vivir Quintana.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Nous sommes toujours avec Karine Tina, enseignante chercheuse au Colegio de México, et Alexia Prado, autrice d'un mémoire sur la législation sur le féminicide au Mexique. Et nous parlons des attentes des activistes féministes par rapport à l'élection de Claudia Sheinbaum. Est-ce que peut-être, Karine Tina, vous pourriez nous dire quelles sont les mesures annoncées par Claudia Sheinbaum en matière de lutte contre les violences de genre pour son futur mandat ?
Elle n'a pas annoncé, je crois, à mon sens, encore ce qu'elle allait faire, si ce n'est de dire qu'elle allait prolonger le travail pour dépénaliser l'avortement. Alors, l'avortement, il faut savoir qu'il est dépénalisé dans tout le pays à un niveau fédéral, mais il faut encore que chaque État le ratifie pour que ça prenne effet, disons. Donc ça, je sais qu'il y a ce travail-là qui va être poursuivi et il y a une vraie prise de conscience justement au niveau des féminicides et donc des mesures qui vont être prises. Et surtout, elle a promis qu'il fallait lutter contre l'impunité. Donc je dirais qu'on espère, on a des attentes très, très fortes à ce niveau-là.
Merci. Et peut-être Alexia Prado, est-ce que tu as aussi quelque chose à apporter ?
Oui, comme Karine l'a bien dit, en fait, il n'y a pas quelque chose de concret parce que ce n'est pas vraiment un sujet prioritaire dans l'agenda de Claudia Sheinbaum. Mais il y a à peu près quelques mesures, même si pas super bien définies, qui ont été promises, comme élever au rang constitutionnel l'égalité et les droits à la vie sans violence, parce que il y a déjà des lois sur les droits aux femmes de vivre sans violence, mais ce n'est pas encore protégé dans la Constitution, même si la Constitution porte bien des articles sur l'égalité entre hommes et femmes. Modifier la loi pour permettre des cabinets paritaires à niveau fédéral et local, et essayer des brèches salariales, et fédéraliser les lois très importantes qui ont lieu récemment au Mexique, comme diffusion des images intimes sans le consentement de la personne en Internet. Impulser les programmes SOS Mujeres, SOS Femmes, au niveau fédéral, qui est un programme actuellement exclusif à Mexico, selon lequel toutes les dépendances administratives devraient être coordonnées pour offrir un soutien aux femmes à travers une ligne téléphonique spécialisée. Faire une réforme à la loi pour que les meurtres violents des femmes soient recherchés dans tous les cas comme des tentatives de féminicide. Pas une fois qu'on ait prouvé que ça a été en raison de leur genre, comme c'est actuellement le cas dans la loi. Sinon, juste partir du principe que c'est toujours un féminicide et après prouver que c'est le contraire. Aussi, créer un système national de soins cherchant à aider les femmes qui travaillent pour la protection des autres êtres humains. Ou encore, fédéraliser un plan de sentiers sûrs qui récupère des zones de l'espace public pour garantir les transits sûrs dans la capitale. C'est-à-dire, c'est soit transposer des programmes déjà locaux à Mexico à niveau fédéral ou encore une promesse d'améliorer ce qui existe déjà. Mais beaucoup de choses existent déjà dans la loi. Donc, on reste encore sur des promesses un peu vides et pensées à moitié, à mon avis, et pas vraiment à essayer de travailler sur ce qui existe pour bien l'exécuter. Je crois qu'il manque encore un travail une véritable formulation. Non seulement créer des choses qui existent déjà, sinon vraiment chercher à pourquoi ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour que des mesures qui sont en théorie bonnes aient véritablement à prévenir le féminicide ou dans son cas, les sanctionner.
Merci beaucoup pour tes précisions, Alexia. Pour finir, on a vu récemment des activistes défenseuses des droits des personnes trans qui ont manifesté devant le congrès local de la Ciudad de México et qui exigeait la typification du délit de transféminicide. Est-ce que, selon vous, peut-être, Karine, Claudia Sheinbaum pourrait être favorable à cette typification du transféminicide à l'échelle fédérale ?
Elle va être favorable. Je pense qu'elle est dans une disposition à aider les femmes, aider les trans, et travailler aux côtés de la population LGBT et de travailler pour une moindre discrimination au niveau de la diversité sexuelle. Maintenant, j'avoue qu'on attend un peu de voir. Je pense qu'on veut être optimiste, on veut que les choses bougent dans un certain sens. On va voir ce qui va se passer. Vous savez, avec le gouvernement antérieur, avec Andrés Manuel López Obrador, on a eu beaucoup d'attentes. C'était un gouvernement de gauche qui arrivait et on avait espoir que beaucoup de choses se fassent. Non seulement pour les transféminicides, les féminicides en général, et puis aussi, par exemple, les grossesses dans l'adolescence. Il y a énormément de grossesses dans l'adolescence qui interrompent l'éducation des adolescents. Et il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, mais pas suffisamment. Et il y a eu certains programmes qui ont été abandonnés. Par exemple, des programmes qui intéresse les crèches. Et AMLO, il y a quelques années, a dit non, il faut abandonner les crèches parce que ce sont les grands-mères qui doivent prendre soin des enfants. Et donc il y a eu aussi, il a eu un discours qui a prôné une vision traditionnelle de la famille, les femmes dans des rôles traditionnels, alors qu'on attendait un autre positionnement venant de la gauche. Et il a cherché à faire taire les féministes, à les disqualifier. Et moi, je pense, j'ose espérer que Claudia Sheinbaum, elle va avoir une attitude différente. Elle va vraiment développer une empathie par rapport à des problèmes comme le transféminicide, comme toutes ces mères qui cherchent leur enfant disparu. Et là, quand je dis enfant, c'est aussi filles et garçons. De cela, on ne peut pas être sûr à 100%, évidemment.
Merci beaucoup, Karine Tina, d'avoir précisé aussi le positionnement de l'administration AMLO face au mouvement féministe qu'il voit finalement comme une opposition. Merci Alexia Prado, merci à vous deux d'avoir été présentes pour cette interview et nous nous retrouvons après une pause musicale. Tout de suite, c'est Chavela Vargas, figure de proue de la musique ranchera à partir des années 1960 et icône culturelle qui transgressait les conventions sociales liées au genre.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida,
para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí.
C'était Piensa en mí de Chavela Vargas et tout de suite on passe à la chronique de Pauline qui va nous parler de Frida Kahlo qui regroupe à elle seule les définitions d'artiste, de féministe et de mexicanité. On connaît par cœur ses autoportraits, sa vie déchirante et douloureuse mais aussi heureuse, si bien qu'elle nous semble sans secret. Une vie mise en avant jusqu'à en créer un mythe. Pauline, tu nous proposes ce soir de redécouvrir cet artiste en déconstruisant un peu l'image qui a pu provoquer sa célébrité, en s'attardant sur une liste d'objets et d'archives qu'elle a laissées et qui lui étaient chères.
Oui, il y a 70 ans, le 13 juillet 1954, s'éteignait une artiste peintre mondialement connue qui a su dépasser les frontières jusqu'à devenir une icône majeure de la liberté. Je veux bien sûr parler de Frida Kahlo. Pourtant, l'image de l'artiste dont le portrait a été représenté sous tout type d'objets est devenue plus que jamais une tendance, voire un réel argument de vente. Une Frida mania, pourrait-on dire, à mille lieues de l'œuvre et du parcours de la peintre mexicaine. Mais en dépit d'un flot apparemment ininterrompu d'informations sur sa vie et son œuvre, Frida Kahlo demeure une énigme et je ne cherche pas forcément à la résoudre. Je me pose simplement la question, à quoi peut-on se raccrocher pour mieux saisir la vie ou sinon la vision de cette femme ? Alejandro Gómez Arias, son amour de jeunesse, a écrit en 1983 à propos de Frida Kahlo « Elle était si contradictoire, si multiple, que l'on pourrait dire que la personnalité de cette femme était constituée de plusieurs Frida. » Peut-être nous propose-t-il ici une piste. Voici quelques objets qui permettent de mettre en lumière sa personnalité, son histoire, mais aussi la construction de son œuvre et qui permettent de mieux comprendre qui elle était vraiment.
Après sa mort, le peintre Diego Rivera, son mari qu'elle a épousé à deux reprises, décide de mettre sous scellé les archives de Frida Kahlo. Pourtant, ce n'est que en 2004 que nous pouvons découvrir ces archives.
Oui, en effet, car avant de mourir, Diego Rivera a convié les archives de Frida Kahlo à une amie commune, qui elle-même a demandé que ces archives soient accessibles qu'après sa propre mort. Et comme elle a vécu très longtemps, ce n'est qu'en 2004 qu'on a pu découvrir enfin ces fameuses archives. Deux pièces entières d'objets de la Casa Azul, là où elle est née et a vécu pratiquement toute sa vie.
Parmi les objets retrouvés, il y a tout d'abord une photo. Mais de qui s'agit-il, Pauline ?
Il s'agit d'un autoportrait, celui de son père. Guillermo Kahlo, peut-être l'une des premières figures marquantes pour la jeune Frida. Petite, elle venait souvent avec lui dans l'atelier. C'est là qu'elle aide son père à préparer les modèles pour les portraits. Mais surtout, elle observe. Immigré allemand, il avait changé de prénom en arrivant sur le sol mexicain à la fin du 19e siècle. Très vite, Guillermo Kahlo est considéré à l'époque comme l'un des meilleurs photographes du Mexique, connu notamment pour ses autoportraits. On ne peut pas nier l'importance qu'a eue la photographie dans l'art de la jeune Frida, lorsqu'elle peint avec peine, allongée à l'aide d'un miroir, ses premiers autoportraits. Mais aussi des portraits, ceux de ses sœurs, de ses proches qui l'entourent. Certes, l'accident, la nécessité d'être alitée pendant une longue période avait facilité cette démarche d'autoportrait, mais peut-être que l'on peut voir ici également une tradition familiale, comme une introspection personnelle au fil du temps, une habitude sacrée chez les Kahlo.
Tiens, un habit, on dirait un habit traditionnel des peuples indigènes et métis du sud du Mexique et de l'Amérique centrale.
Oui, tout à fait, cela se nomme un huipil. On connaît l'engagement politique de Frida Kahlo, mais moins son amour pour le textile. Pourtant, elle a utilisé toute sa vie son apparence comme une déclaration politique, façonnant son allure comme une forme d'allégeance à l'identité mexicaine. En effet, Frida Kahlo est issue d'un mélange culturel fort. Son père était germano-hongrois et sa mère espagnole et descendante d'indigènes. Elle a toujours porté fièrement cette double culture et elle illustre d'ailleurs cette fusion des styles européens et mexicains dans l'un de ses autoportraits les plus célèbres, Les Deux Frida, en 1939.
Il y a également un chapeau, ou plutôt une casquette, Pauline ?
C'est ça, une cachucha, qui signifie casquette. À l'école, Frida traînait souvent avec un groupe de jeunes avec qui elle séchait les cours de la prestigieuse école préparatoire nationale. Ces jeunes formaient un club politique sous le nom de Los Cachuchas, du nom des casquettes à visière qu'ils portaient comme signe de subversion contre le code vestimentaire rigide de l'époque. C'est au cours de cette période qu'elle découvre la liberté, la littérature, la sexualité. Portant le pantalon, elle transgresse les codes et se forge une réputation unique. Dès son adolescence, Frida Kahlo a montré son intérêt envers la mexicanité, un mouvement qui se développe en parallèle de la Révolution mexicaine de 1910, date qu'elle attribue d'ailleurs à sa naissance, comme pour marquer son allégeance à ce nouveau Mexique.
Il y a également une caisse en métal contenant de nombreuses lettres, dont une à Diego Rivera qui est datée du 12 septembre 1939 et jamais envoyée.
Et il n'y a pas qu'une seule lettre, ils se sont écrits longuement, mais celle-ci est restée la plus célèbre. C'est un long poème qui témoigne de leur relation passionnelle et tortueuse. Frida rencontre Diego en 1927. Il est déjà un peintre renommé, commence à s'illustrer pour ses fresques monumentales. Tantôt marié, tantôt divorcé ou remarié. Cette relation ouverte, mais marquée par quelques liaisons impardonnables, est devenue le modèle de l'amour passion et brûlant. La plupart de ces objets se trouvent à la Casa Azul à Mexico, une maison bleue électrique, avec un jardin magnifique. Un lieu central pour Frida Kahlo, devenu aujourd'hui un lieu de culte capitaliste dont la visite n'est pas très accessible, pour ceux qui réservent bien à l'avance. Pour en savoir plus, je vous recommande les deux épisodes du podcast « Vénus épilait-elle la chatte » sur Frida Kahlo, réalisé par Julie Bozac.
Merci beaucoup Pauline Rossano pour cette chronique culturelle. Bonsoir Anaël. Tu m'as soufflé dans l'oreillette que Frida Kahlo était passionnée par les cultures autochtones du Mexique et s'inspirait dans ses œuvres d'art de sa grande collection d'objets archéologiques. Tu souhaitais nous en dire plus sur l'une de ces civilisations, et pas n'importe laquelle, le plus grand empire que les conquistadors espagnols aient affronté lors de leur conquête de ce qui allait devenir la Nouvelle-Espagne, puis le Mexique.
En effet, je vous propose de remonter le temps, et plus précisément 700 ans en arrière, au moment de la fondation de la cité précolombienne de Mexico-Tenochtitlan, là où se trouve actuellement la capitale du Mexique, dont elle a hérité du nom. Pour ce faire, rien de mieux que de visiter l'exposition « Mexica, des dons et des dieux au Templo Mayor » présentée jusqu'au 6 octobre 2024 au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Mais commençons par un petit point lexical. Le mot nahuatl « Mexica », qui s'écrit M-E-X-I-C-A, est le terme correct pour désigner la civilisation d'Amérique préhispanique que l'on a longtemps appelée « Aztèque ». À partir du XVIIe siècle, cette appellation impropre s'est diffusée dans des écrits d'auteurs européens, puis elle s'est imposée dans le langage courant et dans les imaginaires collectifs. Depuis la fin du XXe siècle, le terme « Mexica », qui était employé par les populations autochtones, prévaut désormais. Ces questionnements illustrent les précautions avec lesquelles il convient de manier les sources documentaires dont on dispose pour connaître ces civilisations anciennes, majoritairement anéanties par la colonisation européenne. Outre les manuscrits d'époque précolombienne ou des débuts de la période coloniale, réalisés par des scribes et des dessinateurs autochtones, une grande partie de ce que l'on sait provient de récits faits par les Européens, notamment les missionnaires venus évangéliser la région.
Et puisque les femmes sont à l'honneur dans cet épisode, tu souhaitais nous parler de la vie des femmes mexicaines en situant leur trajectoire de vie dans le contexte d'une société militariste et théocratique.
Tout à fait. Je souhaitais vous offrir un aperçu du cycle de vie des femmes mexicaines en m'intéressant aux étapes charnières, souvent marquées par des traditions et associées à un symbolisme révélateur de la conception du féminin dans cette société. Les rites de naissance annoncent la couleur. Lorsqu'une sage-femme mexica coupe le cordon ombilical d'un nouveau-né de sexe féminin, ce cordon est placé sous le foyer, lieu des activités domestiques auxquelles les petites filles seront destinées, tandis que le cordon ombilical des bébés de sexe masculin est enterré sur un champ de bataille. Concernant les cadeaux de naissance, on offre des outils pour fabriquer des textiles, de la vannerie et faire le ménage pour les unes, et des armes miniatures pour les autres. Au niveau de l'éducation, la répartition des savoir-faire et des devoirs en fonction du genre se poursuit. À l'âge de 6-7 ans, les petites filles apprennent à filer le coton auprès de leur mère, puis à 13-14 ans, elles s'essayent au tissage et à la broderie, des arts traditionnellement féminins. De leur côté, les garçons aident au transport de charges et à la pêche, ou sont initiés au métier de leur père, lorsque celui-ci se consacre à un artisanat de luxe, comme la sculpture, l'orfèvrerie ou la plumasserie. Les garçons peuvent aussi être formés à une carrière publique dans l'armée, l'administration ou la religion d'État. lorsqu'à l'adolescence, les institutions publiques prennent la relève, une distinction de classe intervient. Si les personnes de familles modestes vont dans les maisons de la jeunesse, les collèges dits « calmecac » sont réservés aux filles et aux fils de la noblesse. Il s'agit d'une société extrêmement hiérarchisée. Les filles qui intègrent les calmecac, dirigées par des religieuses, y apprennent à servir et à honorer les dieux dans le recueillement et l'austérité, mais aussi à chanter et danser lors des cérémonies et à tisser de luxueux textiles pour en faire don aux divinités. La classe sacerdotale orchestre la religion d'État et ses rites, qui scandent le calendrier. Elle gère le système éducatif et contrôle en grande partie la production artistique.
Qu'en est-il de leur façon d'envisager le mariage, la procréation et la parentalité, notamment du point de vue des femmes ?
Alors, l'éducation d'une jeune fille prend fin lorsqu'elle est prête à se marier, soit entre la puberté et le début de la vingtaine. Au cours des mariages, les femmes âgées, très respectées, servent d'intermédiaires entre les familles des futurs époux. Lors du rite, ces marieuses portent la fiancée sur leur dos, la déposent sur une natte à côté du futur mari, puis nouent ensemble le manteau du jeune homme au corsage de la jeune fille. C'est par ce geste que le mariage est confirmé. Des festivités ont lieu, avec des festins et des discours, tandis que les époux se retirent dans le but d'observer 4 jours de prière avant de pouvoir consommer le mariage. La piété envers les divinités est donc omniprésente, elle s'immisce jusque dans l'intimité. Le moment de la grossesse et celui de l'accouchement sont aussi ressaisis par la spiritualité et voient le rôle de la femme évoluer. Dans l'attente d'un enfant, une sage-femme prend soin de la future mère, notamment à travers des massages et des bains de vapeur, et la future mère doit respecter un certain nombre d'interdits, comme le fait de ne pas regarder d'éclipse, phénomène associé aux fausses couches. Les femmes enceintes sont placées sous la protection de la déesse Coatlicue, assimilée à la mère des dieux, car elle aurait donné naissance à la lune, aux étoiles et aux dieux du soleil et de la guerre. Pendant l'accouchement, la sage-femme adresse ses prières à la déesse de l'accouchement, Tlazolteotl, et lorsque le bébé est né, la sage-femme pousse des cris de guerre, louant la mère qui a lutté de toutes ses forces pour donner la vie.
Et puisque tu évoques la naissance, que peux-tu nous dire de la mort dans la société mexica ?
C'est une question fondamentale et une excellente transition m'est fournie par le cas du décès de la femme pendant son accouchement. La défunte intègre alors le groupe des Siwateteo, composé par les esprits des femmes mortes en couche. Celles-ci sont honorées comme des guerriers tombés au combat pour avoir perdu la vie en accomplissant un effort physique ô combien courageux. Cet acte est en effet nécessaire pour la régénération des humains et donc du cosmos. Les Mexicains attribuent à leurs cadavres des vertus magiques, sacrées et puissantes. Ceux-ci sont donc convoités et leurs tombes sont profanées. Certaines personnes essayent de s'emparer des cheveux, d'un doigt, voire même d'un bras d'une défunte morte en couche, lors du cortège funèbre, mais aussi pendant et après son enterrement. À tel point qu'après les funérailles, les proches doivent garder la tombe pendant quelques jours, car les guerriers pourraient essayer de déterrer la défunte pour s'emparer de parties de son corps qu'ils utiliseraient comme des amulettes de protection au combat. Dans la religion des Mexicas, on pense que les femmes mortes en couche guident le dieu du soleil dans sa trajectoire quotidienne dans le ciel, au même titre que les guerriers morts au combat que j'évoquais il y a un instant. Et cette analogie est intéressante. Dans cette société extrêmement genrée, où les femmes sont globalement confinées dans l'espace domestique, on remarque que sous certaines conditions, elles peuvent être érigées à un très haut niveau de reconnaissance symbolique, à l'instar des hommes qui se sont sacrifiés en poursuivant l'impératif suprême des humains dans la vision du monde mexica, offrir du sang et des cœurs aux divinités. C'est en ce sens que se déroulaient d'ailleurs de nombreux rituels religieux, mais aussi que doit se comprendre une pratique centrale parmi les usages de la caste militaire, la capture de prisonniers de guerre afin de les sacrifier aux dieux. Cette capture et ce sacrifice sont des actes nécessaires qui permettent au monde de se maintenir en l'alimentant métaphoriquement et très concrètement par le sang et les organes. Et c'est aussi une manière d'honorer le sacrifice primordial que les divinités ont elles-mêmes fait afin que le cinquième soleil puisse émerger, permettant ainsi la vie. D'où l'image d'une société extrêmement violente, voire cruelle, que les conquistadors espagnols ont soulignée, tandis qu'ils entreprenaient de la conquérir, de la réprimer et de l'évangéliser à partir du XVIe siècle. Outre ces cas très particuliers, de guerriers et de femmes mortes en couche, les Mexicas croyaient que la vie dans l'au-delà dépendait essentiellement du type de mort que les dieux avaient destiné aux individus. Pour conclure, je ne peux que recommander de visiter l'exposition « Événements, Mexica, des dons et des dieux au Templo Mayor » au musée des Quai Branly Jacques Chirac, ou d'en feuilleter le catalogue. Vous découvrirez les trésors de créativité, les mythes passionnants du panthéon Nahua et la ferveur religieuse dont les Mexicas ont fait preuve.
Il semblerait que l'émission Semillas Latinas touche à sa fin. Merci à nos talentueuses chroniqueuses Paloma Petrich, Manon Mézia, Anaëlle Michel, Pauline Rossano et Astrée Toupiole qui participent à l'émission depuis le Brésil. Merci à Michaela Darve pour la réalisation de cette belle émission. Un grand merci à Emilio Rossano et à Iñaki Modrego pour leur contribution à la composition de ce générique. Merci infiniment à nos invités Karine Tina et Alexia Prado pour leur disponibilité. Et merci à vous, chers auditeuristes, pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify et sur le site de Radio Campus Paris. Semillas Latinas revient le mois prochain. À très vite sur les ondes.